LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Vous allez entendre maintenant Monsieur Alain Poher, président du Sénat, assurant provisoirement les fonctions de président de la République.
Française, Français, la disparition du président Georges Pompidou a endeuillé la France, tout entière rassemblée dans l'hommage qu'elle lui a rendu. Mais elle n'a pas creusé le vide à la tête de l'État.
1974, Pompidou est mort. Une série documentaire de Christelle Le Polothèque et Anne Fleury.
Le président connaît un intérim, mais la République n'en connaît pas.
Dernière partie, drôle de campagne.
La grande affaire de la France, c'est l'élection présidentielle. Elle doit être en métropole comme outre-mer, un acte de démocratie. Il est de mon devoir de veiller au respect d'une stricte égalité entre les candidats. Les responsables de l'ORTF connaissent ma préoccupation. Les contraintes que s'imposent les journalistes de l'Office, et je les en remercie, permettent de mieux assurer cette égalité entre tous ceux qui sollicitent vos suffrages.
Depuis 0h ce matin, il y a 14 noms sur le bureau du Conseil constitutionnel, 14 candidats dont les dossiers sont examinés en ce moment. Jacques Chirac, au Conseil des ministres de ce matin, a déclaré que le Conseil vérifierait les mandats des élus qui parrainent les candidats. Il n'est pas exclu, a ajouté le ministre de l'Intérieur, que quelques-uns de ces candidats n'atteignent pas le nombre suffisant des mandats réglementaires. Et vendredi matin, publication au journal officiel de la liste des candidats. Vendredi soir commencera la campagne officielle. Une campagne à travers toute la France, mais aussi à la radio et à la télévision. Et à ce sujet, M. Marsolon, le président directeur général de l'ORTF, a apporté quelques précisions au micro d'Alain Trampolini.
L'obligation numéro un de l'ORTF, et c'est un aspect essentiel de son rôle de service public, est de diffuser la campagne électorale officielle. Il est bien évident que plus il y a de candidats, plus cette campagne électorale prend de temps et donc plus les programmes se trouvent comprimés. Vous savez qu'il y a une durée de principe, 2 heures, mais que la Commission nationale a le pouvoir de la réduire considérablement. Elle l'avait déjà fait en 1969 et il est à peu près sûr qu'elle sera encore amenée à le faire compte tenu du nombre des candidats cette fois-ci. Il est inutile de vous dire que nous ne voulons pas que la campagne électorale soit une punition pour les téléspectateurs et les auditeurs, autrement dit pour l'ensemble des Français.
Au cours de l'émission de la campagne pour l'élection du président de la République, vous allez entendre les candidats suivants. Messieurs François Mitterrand, Alain Krivine, Émile Muller, Guy Hérault, Bertrand Renouvin, René Dumont, Jacques Chaban-Delmas, Mademoiselle Arlette Laguiller, Messieurs Jean-Marie Le Pen, Jean Royer, Valérie Giscard d'Estaing, Jean-Claude Semain.
Le 15 avril, la campagne officielle pour l'élection présidentielle est lancée. Georges Pompidou n'est presque plus qu'un souvenir. La France se passionne pour cette campagne qui se veut moderne et proche des gens, à l'américaine. Paris Match lance une série d'articles sur les petits déjeuners des candidats dans lesquels on peut lire que Mitterrand aime rester au lit jusqu'à 8h du matin, puis rôder dans son appartement en robe de chambre et déguster à petites gorgées tranquilles son thé citron. Chaban-Delmas, quant à lui, se lève à 7h dans son appartement moderne type cadre supérieur du 16e arrondissement. Il réserve d'abord 15 minutes à la culture physique. Quant à Giscard, il prend au petit déjeuner jus d'orange, pamplemousse, café au lait, toast, confiture. Le tout arrive sur un plateau. On se sert soi-même, précise le journaliste. Le comble de la modernité et de la simplicité. Voilà pour les trois principaux candidats. Mais qu'en est-il des autres ? Nous vous épargnerons ici la profession de foi des 14 candidats, mais il me semblait intéressant de vous faire entendre quelques-uns de ceux qui ont été un peu oubliés, mais qui représentent la diversité de cette élection, depuis les monarchistes jusqu'aux fédéralistes.
Je voudrais présenter une série de problèmes auxquels le fédéralisme apporte la réponse la mieux appropriée.
Monsieur Guy Hérault.
Vous, Lorrain, souvenez-vous de Robert Schuman? Ah, si l'on avait suivi la voie qu'il nous avait tracée. Mais le nationalisme a tout faussé, vidé, bloqué. Dites non aux responsables de cette funeste politique. Et vous, nos frères catalans, de Salsa Guardamar. Et vous, les Basques, nos frères en la souffrance et en l'espoir, soutenez le candidat de l'Europe des peuples. L'Europe ouvrira les prisons. Vous n'êtes pas seuls. On pense à vous et nous vaincrons ensemble.
Monsieur Bertrand Renouvin.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien non, je ne ferai pas comme les autres candidats. Dans les quelques minutes qui me restent, je ne vous supplierai pas de m'accorder vos suffrages dimanche prochain. Mes convictions royalistes et mon appartenance à la Nouvelle Action Française sont largement connues. Et la monarchie n'est pas un parti, et surtout pas le parti des royalistes. Pour moi, elle représente l'indépendance de l'État et l'unité entre les Français. Aussi doit-elle se garder de tous ceux qui voudraient l'annexer ou simplement l'engager pour l'avenir. Voilà pourquoi ma campagne était sans étiquette, sans référence partisane, sans proposition précise.
Vous écoutez France Inter, il est 19h20, dans quelques instants la suite d'Intersoir.
Parmi les figures connues des Français, il y a Alain Krivine, le candidat du Front communiste révolutionnaire, futur LCR, qui s'était déjà présenté à l'élection de 69. Peu convaincu par le candidat de l'Union de la gauche, qu'il trouve trop à droite, Krivine a milité pour une candidature unique à l'extrême gauche révolutionnaire, en la personne de Charles Piaget, figure emblématique de l'IP et du mouvement autogestionnaire. Face au refus de ce dernier, Krivine a finalement décidé de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle.
Un invité ce soir dans le studio d'Intersoir, un candidat à la présidence de la République, Alain Krivine, qui est candidat du Front communiste révolutionnaire. Alain Krivine, c'est la deuxième fois que vous êtes candidat à la présidence de la République. Est-ce que vous pensez avoir une chance d'être élu ?
Oh non, pas plus que la première fois.
Alors pourquoi vous vous présentez ?
Nous utilisons une campagne électorale pour s'efforcer de faire connaître nos positions et nos propositions à des millions de Français, notamment à travers la radio et la télévision. C'est-à-dire que sans nous faire aucune illusion sur la valeur des bulletins de vote pour obtenir des changements profonds dans la société, ce que nous souhaitons, notamment le socialisme, nous nous efforçons néanmoins d'utiliser tous les moyens qui sont mis, je dois dire, très épisodiquement à notre disposition pour transformer cette campagne, en ce qui nous concerne, en un vaste meeting où, au lieu de s'adresser à quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes, on peut s'adresser à des quelques millions de personnes. Ceci dit, je dois dire quand même, pour ajouter, qu'on va quand même assister à une véritable caricature de démocratie, même plus importante encore, si c'est possible, que celle de 69. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun débat politique, ou très peu de débats politiques réellement intéressants à la radio et à la télévision pendant toute l'année. Il y a un certain bourrage de crâne, celui-là il est quotidien, et d'un seul coup, pendant quelques heures, il va y avoir un autre type de bourrage de crâne, où l'ensemble des candidats, il paraît qu'il y en a 14, il y en aura peut-être 13, vont défiler avec des tonnes de promesses, des quintaux d'illusions, mais vont défiler et finalement donner un spectacle assez affligeant, en ce sens que pour dégoûter les gens de la politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire l'intérêt que les gens doivent porter à leur situation, à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, à ce qui se passe dans leurs entreprises, à la vie quotidienne et aux grandes orientations du pays, eh bien finalement ça va se traduire, je répète, par des heures lassantes qui vont, pendant quelques journées, pendant une semaine, abrutir l'ensemble des travailleurs.
Mais deux candidats à l'extrême gauche, Arlette Laguiller et vous, est-ce que ça n'est pas un trop ?
C'est pour ça qu'on a fait tous ces efforts pour qu'il y ait un seul candidat, Charles Piaget. Malheureusement, on s'est heurté à deux obstacles. D'une part, celui du PSU, bien dont nous avons connu les résultats il y a quelques jours, et deuxièmement, aussi l'obstacle, il faut le dire très fraternellement, de nos camarades de lutte ouvrière, qui n'ont pas du tout la même conception de l'enjeu politique qui se déroule aujourd'hui, et qui dès le départ s'étaient opposés à la candidature de Charles Piaget, voire même à une candidature qui aurait pu faire l'unité de tous les révolutionnaires. Alors c'est vrai que nous avons des divergences avec les camarades de lutte ouvrière, sinon nous serions avec eux, des divergences qui sont importantes, qui font que les camarades de lutte ouvrière ont très peu participé dans le passé à toutes les mobilisations de l'extrême-gauche, que ce soit la marche sur l'Ypres, la manifestation antiraciste du 21 juin, participation au comité Chili. Nous avons donc beaucoup de divergences. Nous n'avons pas la même pratique dans les entreprises, notamment nous ne considérons pas qu'il faille donner un blanc-seing au syndicat Force ouvrière. Ceci dit, nous dirons parfois les mêmes choses, et je le souhaite. Eh bien, disons que c'est parfait. Nous, les révolutionnaires, utiliserons deux fois un temps d'antenne pour taper sur un même clou. Eh bien, ma foi, je crois que c'est, d'un certain point de vue, même si on peut regretter cet état de fait, ça n'est pas tout à fait négatif.
On a évoqué les candidatures trotskistes, mais qu'en est-il de l'Union de la gauche, dont on dit même dans les sondages que le candidat François Mitterrand pourrait remporter le deuxième tour ?
Il y avait deux angoisses vis-à-vis de François Mitterrand. Il y avait l'angoisse de son programme économique qui faisait quand même peur à beaucoup de gens. Beaucoup moins qu'en 81, mais enfin quand même. Et puis il y avait l'alliance avec le Parti communiste.
Alain Duhamel.
Pour la majorité des Français, il faut se rappeler qu'on était encore dans la guerre froide. Et pour la majorité des Français, le Parti communiste, c'était un épouvantail absolu. Et on imaginait déjà des ministères investis par les militants, etc. Moi, franchement, je n'y croyais pas du tout. C'était mon premier sujet d'étude, le Parti communiste. Premier thème politique que je sois vraiment arrivé à lancer, c'était celui de son déclin. Et j'étais, ce qui d'ailleurs me valait des polémiques, avec l'Humanité notamment. Mais j'étais persuadé à ce moment-là que le Parti communiste était déjà sur son déclin. Et donc, que François Mitterrand avait en plus les ressources personnelles, l'autorité personnelle. Donc, c'était pas de l'inquiétude, c'était en fait, il fallait évaluer les capacités et ce qu'on savait des programmes des trois ou quatre principaux candidats. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Voilà, Alexandre Sanguinetti, vous avez entendu ce qu'a dit ce matin François Mitterrand au micro de France Inter. Tout de suite, certainement, une réaction au propos du candidat unique de la gauche.
L'interprétation de M. Mitterrand est relativement correcte quant aux institutions. Je dis relativement parce qu'il s'applique à la lettre beaucoup plus qu'à l'esprit. Mais dans tout ceci, il ne mesure pas, ou plutôt il feint de ne pas mesurer, le fait que les communistes n'ont pas présenté de candidat pour le tenir plus serré et qu'il est douteux qu'il le laisse s'évader bien loin. J'ignore comment cela se passerait sur le plan parlementaire. Il est douteux qu'avec la majorité actuelle, il puisse échapper à terme à un refus de la majorité telle qu'elle a été depuis 1969. Mais évidemment, à partir de ce moment-là, il ira aux élections. C'est très exactement d'ailleurs le moment que les communistes attendent, parce qu'ils ont toujours joué les élections législatives et pas l'élection présidentielle, laquelle est pour eux simplement un préalable aux élections législatives qui leur permettront à ce moment-là d'assurer définitivement leur emprise. Beaucoup d'hommes qui valaient M. Mitterrand, par exemple M. Beneš en Tchécoslovaquie, avaient fait des calculs semblables. Et l'on sait où ils se sont retrouvés. Je constate que le printemps de Hongrie, car il y en a eu un, en 1947, donnait à l'Assemblée hongroise 50% de petits propriétaires paysans, 25% du Parti national paysan, 16% de sociaux-démocrates et 9% de communistes. Et en 48, ils étaient 100%. Je ne sais pas par quel miracle, et j'aimerais bien connaître la formule pour nous-mêmes. Mais enfin, c'est cela qui l'attend. Voilà ce que je peux dire de sa déclaration. Je n'ai rien à lui reprocher sur le plan des principes. Mais des principes, en réalité, il y a un tel chemin que j'espère qu'il n'aura jamais à le mesurer.
Alexandre Sanguinetti, pour le secrétaire général de l'UDR, que vous êtes l'ennemi public numéro un aujourd'hui, c'est François Mitterrand ?
Il n'y a pas d'ennemi public. Je ne me reconnais pas pour ennemi un citoyen français quel qu'il soit, même quand il est communiste. Il y a un adversaire. Et il y a un adversaire parce que le changement radical des sociétés qu'il nous offre me paraît sans objet et sans raison dans la société très évoluée qu'est la France de 1974, même avec les problèmes qu'elle a. J'ai déjà eu l'occasion de dire que si j'avais appartenu à la Russie de 1917, peut-être aurais-je été communiste. Mais il se trouve que je suis en France en 1974. Cela me paraît assez aberrant de nous proposer des solutions de pays sous-développés pour un pays qui a dépassé le stade du développement.
À Toulouse, c'est devant plus de 40 000 personnes que François Mitterrand a lancé un ultime appel.
Ainsi que je l'ai souvent répété, pour ce qui me concerne, je n'en suis pas à 15 jours près. Mais la France, mais notre société, mais notre peuple, n'a-t-il pas assez attendu? Vous n'êtes pas pressé, vous? Vous ne voulez pas construire une société nouvelle? Vous ne voulez pas en finir avec l'injustice qui opprime le plus grand nombre? Vous ne voulez pas réduire les inégalités inacceptables de la vie quotidienne? Vous ne voulez pas en finir avec le malheur des vieux et l'angoisse de la mère qui sait que son petit, si elle est pauvre, a si peu de chance d'être lui-même? Vous ne voulez pas essayer? Vous ne voulez pas gagner du temps sur le malheur? Vous ne voulez pas rattraper un peu du temps perdu? En tout cas, c'est maintenant votre affaire. J'ai fait ce que je pouvais. Merci à ceux qui ont cheminé et qui sont venus jusqu'ici comme dans les grandes fêtes d'autrefois.
Monsieur Jean-Marie Le Pen.
Vous ne devez pas et vous ne pouvez pas voter pour le socialo-communiste monsieur François Mitterrand. Parce que chaque fois que le socialisme marxiste a pris le pouvoir dans un pays, cela s'est traduit par une dictature militaire ou par une dictature des communistes. Et que son arrivée mettrait gravement en péril notre avenir, nos libertés et notre prospérité. Ceux qui souffrent des injustices sociales, et que je comprends, je leur dis, ne votez pas pour ce candidat, ce serait encore pire, n'oubliez jamais Budapest, Prague et Santiago du Chili. Mais si par contre vous souhaitez, avec moi, avec le Front National, construire un monde nouveau, briser la bipolarisation de la France, empêcher l'affrontement, créer cette république fraternelle des travailleurs unis dans la nation, alors vous voterez pour le Front National. Vous voterez pour les idées que je vous présente et l'homme que je suis. Si je suis votre champion au premier tour, je défendrai vos idées au deuxième, mais je continuerai le combat. Vive la République, vive la France.
Et pour terminer avec les candidatures, ce matin, conférence de presse d'un autre candidat, Monsieur Émile Muller, le candidat réformateur. Une conférence de presse à laquelle vous assistiez, Bernard Benyamin.
Oui, une conférence de presse où Émile Muller était bien seul pour défendre le programme du Parti réformateur sans le soutien de Jean Le Canuet ou de Jean-Jacques Savant-Schreiber. À 59 ans, Émile Muller se pose comme le représentant du français moyen avec un slogan très simple, « Il faut que ça change ». Comme, selon lui, il n'y a pas de changement à attendre de Valéry Giscard d'Estaing ou de Jacques Chaban-Delmas, représentant d'une majorité au pouvoir depuis 16 ans, comme le changement proposé par M. Mitterrand n'est pas, pense-t-il, celui qu'attendent les Français, eh bien il a décidé de se présenter. Quant à son programme, il n'a eu aucun mal à le mettre sur pied, il existait déjà.
Eh bien notre programme se résume très simplement dans le programme du mouvement réformateur que nous avons co-signé. Tous ceux qui se sont penchés sur son élaboration, entre autres Jean Le Canuet, Jean-Jacques Servan-Schreiber, nos amis du mouvement réformateur en général, nous allons nous y tenir parce que nous croyons que le programme vaut la peine d'être défendu.
Précisément, est-ce que vous n'avez pas été un peu chagriné de la position compris Jean-Jacques Savant-Schreiber et Jean Le Canuet?
Vous avez raison, j'étais quelque peu chagriné. En effet, j'aime bien qu'on se batte sur son propre programme dans la mesure où on l'a signé.
Oui, chagriné, Émile Muller l'est par l'attitude des deux leaders du mouvement réformateur, attitude que je rappelle, Jean Le Canuet s'est rallié à la candidature de Valéry Giscard d'Estaing et Jean-Jacques Servan-Schreiber, lui, ne s'est pas encore prononcé. Il hésite entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand.
C'est comme ça que je t'aime. 1974, c'est aussi la grande époque du MLF. Et il eût été difficile d'écarter totalement la question des droits des femmes de cette campagne électorale. D'autant plus que le débat sur la légalisation de l'avortement vient de s'ouvrir à l'Assemblée nationale. Mais la société française, et les médias en particulier, restent empreints d'un machisme qui s'exprime encore sans filtre, à l'image de cet éditorial de Jean Dutour pour Paris Match. Je cite. « Les dames du MLF ont lancé un mot d'ordre de grève pour le mois de mai prochain. Femmes asservies, humiliées, violées, croisez-vous les bras dans votre cuisine, devant votre bureau, vos enfants et dans le lit conjugal. » J'aurais beaucoup à dire au sujet du communiqué du MLF. En particulier, je ne vois guère de femmes asservies, humiliées et violées. Ces adjectifs me semblent plutôt s'appliquer aux individus du sexe masculin. À part les rares faits divers où une malheureuse se fait coincer dans un terrain vague par quatre voyous lubriques, je ne vois guère de femmes violées. Et voici encore un argument en faveur du sexe masculin. 8 crimes passionnels sur 10 sont commis par des hommes, ce qui, à mon avis, montre avec une grande clarté que les femmes leur en font voir de toutes les couleurs. Fin de citation. Un exemple parmi d'autres de la manière dont est traité ce que l'on appelle encore pudiquement les problèmes féminins.
François Mitterrand a été ce matin le premier des candidats à traiter longuement des problèmes féminins. Il tenait une conférence de presse sur ce sujet dans les locaux de son PC électoral de la Tour Montparnasse. L'égalité des droits doit être enfin consacrée dans les faits et dans les textes, a dit le candidat de la gauche. Alain Danvers a suivi cette conférence de presse.
Écoutez, tout de suite, une première annotation. Peu à peu, le gouvernement éventuel de François Mitterrand se dessine astreint. D'ici la fin de la campagne, on aura peut-être la liste complète. On savait déjà que son premier ministre serait un député socialiste. On se doute bien que M. Marchais aura un grand ministère. Mais depuis ce matin, on sait que le gouvernement Mitterrand comptera au moins 2 femmes et à des postes importants. Et quand je dis importants, je ne me berce pas de mots, puisque François Mitterrand n'exclut pas, a priori, d'en nommer une à la tête des armées, comme c'est le cas en Suède. J'imagine le frisson d'épouvante qui vient de passer à l'instant même dans les casernes, mais messieurs les généraux, c'est du sérieux. Le candidat de la gauche veut rompre avec la ségrégation séculaire.
Au niveau du gouvernement, je pense vraiment, ce serait ridicule de ma part de prendre des engagements, et je ne les prendrai pas. Mais un gouvernement qui ne comprendrait pas plusieurs femmes, plusieurs dépassant le chiffre de 2. Le pluriel commence à 2, il me semble. Mademoiselle Dienesch, elle est le prototype de ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, elle est toute seule, elle se trouve très bien, elle est secrétaire d'État, on la met au bas de la liste et s'occupe d'affaires sociales. Et Monsieur Mesmer, qui a beaucoup de qualités, mais dont la principale n'est pas, je pense, l'originalité d'esprit, a, de ce point de vue, créé une structure gouvernementale la plus déplorable qui soit. Il y a la femme otage, la femme affiche, celle qui interviendra chaque fois un petit peu à la télévision pour montrer qu'on est social et qu'on est féministe. Tout ça, personnellement, j'y répugne.
Alors vous imaginez le murmure de satisfaction qui a parcouru les rangs de l'assistance après cette déclaration, une assistance bien sûr presque uniquement composée de femmes. Et devant ce parterre de roses, plus ou moins écloses, journalistes, représentants d'associations familiales, femmes venues à titre personnel, François Mitterrand a engagé le débat, vous l'avez entendu, sur le ton d'une conversation de salon. Le candidat était dans un strict complet gris, je ne veux pas séduire, a-t-il expliqué, et il a commencé par un avertissement, je vous dirai surtout mon sentiment personnel, car vous le savez, mon rôle ne sera pas de gouverner, en tout cas, sachez-le, les problèmes des femmes ne sont pas spécifiques, ils font partie d'un tout. Et puis, ce fut le jeu des questions et des réponses, est-ce que la tâche de l'homme n'est pas aussi de laver la vaisselle? Ça, Monsieur Mitterrand ne sait pas très bien, pas de réponse. La fonction de reproduction, oui, les deux partenaires, les deux parents doivent exercer les responsabilités d'éducateurs. Le travail féminin, les femmes sont payées le plus souvent au SMIG, elles sont les immigrées venues de France. Les écoles, les crèches, l'école maternelle à 4 ans, bien sûr, dit Mitterrand, indispensable. Je me suis entretenu avec de nombreux pédiatres, des psychologues, j'ai beaucoup lu. La contraception, il y a longtemps que je me bats pour cela. L'information devrait être faite à la radio et à la télé. L'avortement, nous sommes pour, évidemment. pendant un certain délai. La prostitution, oh, c'est le produit du système. Les questions longues, nuancées, agacent parfois M. Mitterrand, tant pis, il se force de sourire et de répondre. Il y a sans doute longtemps qu'il n'a pas été retourné sur le grill de cette façon. Et puis, c'est la fin de la conférence. Madame Mitterrand, toute menue, dans un ciré orange, monte près de lui à la tribune. Le candidat peut alors conclure sur la nécessité de maintenir la cellule familiale.
Les femmes donc au premier plan de la campagne électorale et à plusieurs titres. En effet, pour la première fois, l'une d'entre elles brigue le poste le plus élevé de l'État, comme on dit, et c'est Arlette Laguiller. Ensuite, parce que les épouses des candidats se racontent et racontent leur mari dans la presse. Madame Royer est même allée un petit peu plus loin ce matin. Elle a dit quel était son sentiment sur la chasteté. Une jeune fille doit-elle arriver vierge au mariage, lui a-t-on demandé au micro d'Europe 1. Eh bien, pourquoi pas, répond Madame Royer, je trouve ça très beau. Au contraire, ce serait encore plus beau si le mari aussi l'était, à condition, bien sûr, qu'il n'arrive pas au mariage à l'âge de 30 ans. Ce ne serait plus normal. Mais enfin, ça prouverait qu'il aurait été capable de se dominer et de respecter les jeunes filles qu'il a présentées. Avec nous, Françoise Giroud, directrice de L'Express. Françoise Giroud, il y a une première question qui s'impose à la suite de ce sondage que vous publiez dès ce matin dans l'Express. Est-ce qu'il existe aujourd'hui véritablement un comportement électoral des femmes différent de celui des hommes ?
Personnellement, je vous répondrai non. Je veux dire qu'il y a eu un électorat proprement parlé féminin du temps que les électrices n'étaient pas informées du tout. Alors, moins on est informé, moins on a de culture politique ou historique, et plus on a tendance à se conduire d'une façon infantile par rapport à la politique, et à considérer que la politique c'est dégoûtant, la politique c'est affreux, la politique c'est des combinaisons, alors on se déclare entre guillemets écœuré. Ce qui est simplement une forme d'infantilisme, d'infantilisme tout à fait compréhensible quand on a, encore une fois, aucune culture historique. Mais ce n'est plus le cas, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui.
C'est-à-dire que cette fois, le charme personnel du candidat qui apparaît à la télévision, par exemple, devrait jouer beaucoup moins.
Écoutez, c'est une plaisanterie, cette histoire de charme. Je voudrais bien qu'on me dise, que trouvez-moi une femme qui vous dise « je vais voter pour ce monsieur comme président de la République parce qu'il a du charme ». Enfin, vous êtes vraiment encore pire que les autres, pourtant vous êtes jeune. Non, et vous en êtes encore à dire des sottises pareilles. Je vous assure que c'est navrant. Je ne sais pas comment faire comprendre aux hommes que les femmes ont toutes sortes de défauts, de traits désagréables, toutes sortes de choses. Vous pouvez tout dire des femmes, mais ne les prenez quand même pas toutes pour des imbéciles.
Mais c'est, Françoise Giroud, c'est vous qui à l'instant parliez d'un certain infantilisme, même c'est le terme que vous avez
mais
employé.
Mais l'infantilisme ne joue pas du tout, alors comprenez ce que je dis, l'infantilisme ne joue pas du tout dans le sens comme il est beau et comme il a des jolies dents. L'infantilisme joue dans le sens, voilà un homme qui peut se substituer à la figure de l'homme fort, de l'homme qui sait mieux, de l'homme âgé. Ça a été la force de De Gaulle. Vous ne me direz pas qu'il était joli garçon, quand même.
Peut-être apportait-il un certain sentiment de sécurité.
Exactement. Alors là, nous trouvons l'infantilisme.
Mademoiselle Arlette Laguiller.
Je suis la seule femme à être candidate à cette élection présidentielle. Mais parmi tous ces gens qui se succèdent ici, je suis aussi la seule travailleuse du rang. Et certains d'entre vous seront peut-être choqués de voir ou d'entendre une employée de banque se porter candidate à la présidence de la République. Le Figaro écrivait en substance hier matin, en espérant que ce soit méprisant, que je suis à ma place comme dactylo secrétaire et que j'y reste donc. Eh bien, nous sommes nombreux à penser que les secrétaires dactylo sont aussi compétentes en politique que leurs patrons et en tout cas que certains journalistes. Le même journaliste ajoutait qu'au moins 1 million d'autres femmes auraient pu dire ces choses beaucoup mieux que moi. Je suis d'accord, mais alors je pose la question. Pourquoi aucun des amis politiques de ce journaliste n'a-t-il donné la parole à l'une d'entre elles ? Je ne discuterai pas ici des mérites comparés de tous ces anciens ministres, avocats, inspecteurs des finances et diplômés des grandes écoles qui briguent vos suffrages. Si je me présente, ce n'est pas parce que je me crois plus intelligente qu'eux. Je me présente parce que tous ces gens-là ne seraient rien, ne pourraient rien, ne vaudraient rien s'il n'y avait dans ce pays des millions de femmes et d'hommes pour faire tourner la machine économique et produire tous les biens de consommation. Et nous pensons, nous, socialistes révolutionnaires, que ceux qui sont bons pour produire seraient aussi bons pour gérer. Nous pensons qu'il n'y a pas des tâches nobles réservées à ceux qui ont la richesse et des tâches pénibles réservées à ceux qui produisent. et nous dénonçons cette société d'exploitation où ceux qui vivent du travail des autres ont tous les privilèges, tous les commandements, toutes les responsabilités, alors que ceux qui produisent sont privés, eux, de temps, de culture et le plus souvent de ressources décentes. Je ne représente peut-être pas tous ceux qui travaillent et au nom desquels tout le monde parle, mais pour une fois, c'est une travailleuse qui parlera. Regardez tous ces candidats de la droite qui prétendent parler dans l'intérêt du peuple. Giscard d'Estaing est le fils d'un grand bourgeois et les noms de ses parents et amis qui sont tous membres des conseils d'administration des grandes banques et des grands trusts industriels noircissent les pages du bottin mondain. À commencer par sa femme dont des milliers d'ouvriers, des forges, des aciéries, des laminoirs connaissent le nom parce que c'est celui de leur patron, l'Empire Schneider. Le monde de Chaban est le même, c'est celui des gros négociants, des dirigeants de sociétés et des banquiers. Ces gens-là ne connaissent que le métro pour l'avoir pris un jour où la télévision était là. Et ils ne connaissent de la condition des travailleurs que ce qu'ils en voient lorsqu'ils vont visiter les usines de leurs amis ou de leurs parents. Alors, de quel droit peuvent-ils parler en notre nom ?
Tous les 7 ans et même parfois avant, on a droit au grand carnaval. Au carnaval de la magouille, au grand défilé des embrouilles. C'est tellement pitonnant que ça en devient consternant.
France Inter, 8h.
Le 30 avril.
Le journal. Et si le corps électoral français n'était composé que d'électeurs de centre-gauche ? À entendre les candidats, ils sont importants, nécessaires, voire indispensables, ces Français de centre-gauche. C'est à eux que s'adressent désormais tous les discours, qu'ils soient signés Mitterrand, Chaban ou Giscard. Le centre-gauche, c'est le symbole de l'ouverture. Attirer le centre-gauche, c'est faire la preuve qu'on n'est pas à droite, mais également qu'on n'est pas à l'extrême-gauche. Plus prosaïquement, le centre-gauche, c'est ce qu'il faut à Giscard pour assurer sa qualification pour le second tour, ce qui permet à Chaban d'espérer encore refaire son retard sur Giscard, ce qui donne à Mitterrand l'espoir de l'emporter enfin. En fait, personne ne connaît très bien le nombre de ces électeurs marginaux, ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ces électeurs du juste milieu, fléau de la balance qu'un rien fait pencher, d'où la débauche d'efforts, de voyages, de meetings, d'un bout à l'autre de la France. Pendant ce temps, imperturbable, les sondages redonnent ce matin encore la même photo des intentions de vote pour le premier tour. Mitterrand, 42%, Giscard, 31%, Chaban, 18%. Ce sont les intentions de vote recueillies par l'IFOP pour France Soir, Henri Pajot.
Ces chiffres sont intéressants car ils sont exactement les mêmes que ceux enregistrés par le même institut d'opinion la semaine dernière, le 25 avril. Les candidats affectent de ne pas attacher une importance déterminante à ces sondages. Cependant, Valéry Giscard d'Estaing est apparu particulièrement sûr de lui au cours de ses dernières interventions.
Il faut dire qu'à Perpignan, où il se trouvait hier, l'atmosphère était à la joie. Patrick Poivre d'Arvor.
J'ai dû suivre une bonne vingtaine de meetings de Giscard depuis le début de cette campagne. Eh bien, c'est à Toulouse que le candidat a prononcé son meilleur discours devant le meilleur public. Incisif, plein de punch, mordant, lorsque par exemple il s'en est pris au programme commun, le candidat s'est même donné l'élégance de citer nommément pour la première fois son adversaire de la majorité, Jacques Chaban-Delmas, mais pour en dire du bien. C'est-à-t-il dit du temps du gouvernement de M. Chaban-Delmas que le SMIC a été le plus relevé.
Le pop continue après, voici Inter Minuit, Hugues Girard.
Le 4 mai.
Eh bien, en principe, la campagne pour le premier tour des élections se termine à 7 secondes précises. Bien évidemment, les candidats ne vont pas interrompre leur meeting au beau milieu d'une phrase. Certains de ces meetings ont commencé fort tard parce que les candidats avaient d'autres occupations. C'est vrai pour Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand qui s'affrontaient dans un débat sur les ondes de RTL. Le premier des grands candidats à avoir terminé sa campagne a été en fin d'après-midi Valéry Giscard d'Estaing, suivi quelques heures plus tard de Jean Royer. Le maire de Tours a terminé donc cette campagne du premier tour par un meeting au Palais des Sports de la Porte de Versailles, un meeting émaillé d'incidents parfois sérieux à la Trampolierie.
Il y a eu quelques problèmes tout à l'heure à 10h15 dans la rue de Vaugirard. Là, il y a eu une trentaine de gauchistes qui se sont affrontés aux forces de l'ordre. Là, peu de problèmes, mais c'est ensuite à la sortie de la réunion de Jean Royer qu'il y a eu là un incident dans le boulevard Victor. Une voiture a été incendiée, une voiture d'un comité de soutien du Calvados a été incendiée alors que le propriétaire se trouvait à l'intérieur, il nous raconte.
Si, parce que j'avais une étiquette sur la voiture de M. Royer. Aussitôt, ils ont dit Royer, ah ouais. Et puis ils sont arrivés avec des bouteilles, ils ont cassé les vitres. Moi, je me suis étalé sur le siège. Puis il y en a un qui a ouvert la porte et qui m'a dit taille-toi parce que autrement il va t'arriver du mal. Alors je me suis taillé et puis je me suis retourné machinalement 30 mètres plus loin. J'ai vu la voiture qui flambait. Là, c'est complètement dégueulasse. Bah, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est inadmissible, on n'a même pas le droit de s'exprimer alors qu'on est en France. C'est regrettable.
Par contre, ce soir, à l'intérieur du Palais des Sports, plus de 6000 personnes étaient venues écouter Jean Royer. Ils étaient venus de toute la France. Jean Royer a dit « Je ne suis pas seul ». Il a développé tout son programme, très applaudi, et a même été applaudi lorsqu'il a développé son programme social.
Il faut enrichir notre vie sociale. Et tout d'abord, dans les familles. Et si je suis pour la protection de la vie à l'intérieur de la famille, et notamment à partir de la naissance de l'être humain, c'est parce que je recommande un plan de vie qui respecte profondément la vie. Les arbres, les eaux, le démazoutage de la mer, l'organisation de cités aérées et l'organisation de la construction avec des densités convenables pour les hommes. C'est parce que ce plan de vie m'est cher et que je le défends, que je défends aussi l'être humain quand il n'a que ses micro-dimensions.
La seule chose qui l'intéresse, c'est l'ordre. C'est lui d'ailleurs qui range son bureau, confie à Paris Match Lucienne Royer, l'épouse du candidat de la morale et des bonnes mœurs, Jean Royer. Dans l'Express, Françoise Giroux nous dresse son portrait. Orateur neuf, redoutable, efficace, n'ayant personne à se concilier puisqu'il ne saurait viser cette fois l'Élysée, il risque de faire des ravages dans tous les rangs, y compris ceux de la gauche, en donnant forme aux angoisses de ceux qui ont le vertige devant leurs enfants. Ceux pour qui tout a été trop vite et trop loin. Les grandes surfaces et l'avortement, les comités d'action lycéens, le tango à Paris et les prêtres contestataires. La France de M. Royer existe aussi. Il est bon qu'elle ait la parole. La parole, pas le pouvoir.
Ce qui est nouveau aussi, c'est que pour la première fois, les intentions de vote sont en faveur de François Mitterrand. 48% contre 44% en cas de duel avec Valéry Giscard d'Estaing, 52% contre 37% dans le cas où l'affrontement aurait lieu avec Jacques Chaban-Delmas. Nous saurons demain soir si les électeurs entendent confirmer ces prévisions, mais d'ores et déjà, il apparaît que si François Mitterrand n'est pas élu au premier tour, sa victoire pour le second est de plus en plus crédible. Mais évidemment, il faut tenir compte du fait que la campagne du deuxième tour aura une autre tonalité et qu'il y aura moins de tirs divergents.
Résultat définitif du premier tour de l'élection présidentielle. Messieurs Mitterrand, 43,24%.
François Mitterrand, 44%.
Giscard d'Estaing, 32,60%. Chaban Delmas, 15,10%.
Jacques Chaban Delmas, 13,6%. Jean Royer, 3,5%.
C'était hier soir à 20h très précise sur France Inter. Vous l'avez entendu et en quelques secondes, tout était dit, tout était joué.
Le 6 mai.
Les chiffres officiels venus ensuite tout au long de la soirée n'ont fait que confirmer la très grande précision qui est désormais celle des spécialistes de l'estimation. Voici ces chiffres officiels maintenant pour la métropole. Mitterrand, 43,36%. Giscard d'Estaing, 32,85%. Chaban-Delmas, 14,64%. Trois autres candidats obtiennent ensuite plus de 1%. Monsieur Royer, 3,21%. Arlette Laguiller, 2,35%. Monsieur Dumont, 1,33%. Tous les autres, y compris messieurs Le Pen, Muller et Krivine, obtiennent moins de 1%. La lanterne rouge étant monsieur Hérault, 0,07%, c'est-à-dire moins de 19 000 voix pour l'ensemble de la France métropolitaine, je vous le rappelle. Il y a eu 84,72% de votants, c'est presque le record absolu de participation. Il ne manquera maintenant que les résultats des départements et territoires d'outre-mer.
En 1974, Raymond Depardon a suivi la campagne de Valéry Giscard d'Estaing et en a fait un documentaire. Censuré pendant 28 ans, le film n'a pu être diffusé qu'en 2002. Dans cet extrait, on peut entendre le candidat Giscard, au lendemain du premier tour, en réunion avec ses plus proches collaborateurs au ministère des Finances.
Bonjour, allez, assieds-toi. Oui, alors c'est pour parler de la préparation du second tour.
1974, portrait de campagne.
Il y a une solution qui consiste à peu près à ne rien faire. Attendez, chapeau, ne m'interrompez pas, ne prenez pas les mauvaises habitudes de la campagne présidentielle. Bon, cela consiste à ne rien faire, parce que, en gros, l'ancienne majorité a 45% des voix, 46% des voix, Royer, ils voteront pour moi, ils ne peuvent pas voter ailleurs, puis il y aura Le Pen qui est à peu près, il ne peut pas faire autrement non plus, puis il n'entraîne personne. Donc, au fond, c'est une élection qui est pratiquement gagnée si on ne fait rien. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre, parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans l'autre. Donc il y a au fond une technique, d'abord, que ce serait à ne rien faire de beaux discours, etc. À laisser le courant passer, en disant ce qui est rassurant, il est très convenable, il est gentil, il parle bien, voilà. Première solution. Et faire une campagne assez de généralité, généreuse et pas trop engageante. Et au fond, on est élu dans ce cas-là. Alors, il y a, à mon avis, une erreur mortelle, c'est de laisser peindre ma campagne aux couleurs de l'UDR. Une erreur mortelle. Sûrement mortelle. Oui, mais attention, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Alors ça, on ne s'en sort plus. Parce que les gens n'ont pas dessus la tête, et on dira...
Marche originale.
Non.
Est-ce qu'on peut dire, Alain Duhamel, que les résultats du premier tour de l'élection ont signé la fin de l'UDR ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que pour l'UDR, c'est une catastrophe dans la mesure où l'UDR, après les législatives de 73, reste le premier parti de la majorité, nettement, enfin de la majorité sortante, nettement. D'autre part, les Républicains indépendants sont certes portés par les circonstances, mais sont nettement moins nombreux, et surtout, Valéry Giscard d'Estaing, en fait, ne veut pas d'une dissolution. Si Valéry Giscard d'Estaing, comme le lui conseillaient beaucoup de gens, à commencer par son meilleur lieutenant, Michel Poniatowski, s'il avait dissous après l'élection présidentielle, comme ça s'est fait depuis, à ce moment-là, pour le coup, les Républicains indépendants prenaient l'ascendant, les libéraux en général, prenaient l'ascendant sur le Parti gaulliste traditionnel. Là, le Parti gaulliste, il a été brisé par l'opération des 43, mais il n'a qu'une idée, c'est de se reconstituer. Et visiblement, la vocation de Jacques Chirac, c'est ça. C'est « j'ai brisé pour empêcher, et maintenant je veux rassembler pour préparer notre revanche ».
Ce qui réussira.
Ce qui réussira à faire, en prenant ce qu'il appellera, lui, le RPR.
Monsieur Chirac, avant toute chose, une question. Vous êtes resté silencieux pendant la première partie de la campagne des élections présidentielles. Mais si vous ne vous êtes pas engagé jusqu'à présent, est-ce que ça n'était pas parce que vous ne pouviez pas, en tant qu'UDR, faire campagne pour Valéry Giscard d'Estaing et que vous ne vouliez pas faire campagne pour Jacques Chaban-Delmas ? Vous avez même fait plus, vous avez lourdement, sans doute, handicapé la candidature de Chaban, et ça, vous le saviez.
Monsieur Bomberger, c'est une observation que l'on peut faire aujourd'hui, à laquelle je ne souscris pas et à laquelle aucun observateur politique de bonne foi, en dehors des passions, peut souscrire.
Tout le monde l'a beaucoup dit à ce moment-là.
Quelques-uns l'ont beaucoup dit. C'est pas parce que ce sont les plus bruyants que ce sont obligatoirement les plus nombreux.
Henri Pajot.
Monsieur le ministre, au-delà des problèmes de la majorité, au-delà des problèmes de personnes, il y a aussi un problème de l'UDR. Parce que dans ce parti, dans ce mouvement, puisque ce n'est pas un parti, il y avait des grincements depuis pas mal de temps. Parce qu'il y a eu ce groupe des 43 qui s'est constitué, que vous connaissez bien, mais avant, il y a eu d'autres groupes. Ils se plaignaient essentiellement du fait que les décisions venaient d'en haut sans tenir compte des avis de la base. Est-ce que cela n'a pas joué aussi ?
Vous savez, il y a Vous parliez du groupe des 43 qui sont maintenant 62 et qui ont partagé la même analyse que moi en ce qui concerne la stratégie qui a été ou qui devait être adoptée pour la préparation de la campagne présidentielle dans l'intérêt de l'UDL.
Et je vous parle de ce groupe parce qu'on retrouve, beaucoup de ces éléments.
Il est vrai qu'il y a eu toujours dans notre mouvement qui ne s'est jamais volontairement imposé les disciplines autoritaires qui caractérisent d'autres mouvements politiques. Il y a toujours eu des mouvements. Mais ceci ne met pas en cause du tout l'unité de l'UDR. Ce n'est pas l'UDR qui a eu 15% des voix aux dernières élections, au premier tour du scrutin des élections présidentielles. C'est en réalité un candidat qui a pris la responsabilité de se présenter, ce qui était tout à fait légitime, et qui, par voie de conséquence, étant lui-même issu de l'UDR, a été soutenu par le mouvement auquel il appartenait, ce qui était tout à fait normal. Les résultats qui ont été enregistrés, s'agissant d'une élection présidentielle, sont les résultats enregistrés par un candidat et non pas par un mouvement politique.
Vous allez entendre au cours d'un débat organisé par l'ORTF, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, présenté par Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel.
Le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand ouvrent la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection.
Le 10 mai,
il est diffusé en direct à la fois sur la première chaîne et la deuxième chaîne de la télévision et sur France Inter. Il est relayé aussi par les radios périphériques et il est diffusé encore par les télévisions d'une douzaine de pays européens et africains. Son importance est à la mesure de l'enjeu. Le 19 mai, vous élirez l'un de ces deux candidats président de la République. C'est donc un grand événement sans précédent à la télévision française. De la plus haute importance aussi pour l'ORTF, puisqu'il ouvre une brèche dans les contraintes très rigides que lui impose la campagne légale. Nous vous remercions, messieurs, d'avoir accepté cette rencontre.
Le débat, à proprement parler, va donc durer 1h30, chacun des deux candidats ayant accepté de donner 45 minutes du temps que la loi lui accorde à la télévision pour le second tour des élections présidentielles. Des chronomètres sont en place qui permettront de mesurer exactement le temps de parole utilisé par chacun des deux candidats.
Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, le tirage au sort vous a désigné pour ouvrir cette discussion, donc vous avez la parole.
Bien, puisque je suis le premier à avoir la parole, permettez-moi d'abord de vous dire bonsoir et de poser la question suivante. Quelle est l'utilité de ce débat? À quoi peut-il servir? Dans ce débat, il y a quelque chose que nous n'essaierons pas de faire, qui est de nous convaincre mutuellement. Parce que le 19 mai prochain, il y aura de toute façon deux candidats à la présidence de la République, et c'est, je crois, bien ainsi.
Alain Duhamel, vous avez participé à ce débat télévisé entre Giscard et Mitterrand. C'était la première fois qu'un tel débat télévisé était organisé autour d'une campagne électorale en France. Vous en gardez quel souvenir?
Écoutez, c'est Michel Bassi et moi qui avions fait plusieurs émissions sur la 2. Et c'est nous qui étions obnubilés, comme beaucoup de journalistes, hein, par le souvenir du fameux débat entre Kennedy et Nixon aux États-Unis. Et on n'avait qu'une idée, mais on en avait parlé très souvent entre nous, qui était d'organiser la même chose. Et c'est ce qu'on est parvenu à faire, avec, disons, l'ignorance bienveillante des autorités de la télévision, qui ne voulaient pas s'en mêler, mais qui ne voulaient pas nous empêcher. Bon, et ça a eu lieu, bon, et il s'est trouvé, on a tiré au sort que c'est moi qui représentais la 2, que c'était Jacqueline Baudrier la 1. Le débat était à la fois... Bon, d'abord, c'était complètement nouveau. Ça a eu une écoute énorme. Mais surtout, comme on le disait, les sondages de l'entre-deux-tours, c'était 50-50. C'est la seule fois où on peut dire qu'on est certain que le débat télévisé aura eu une influence, même marginale, sur le résultat de l'élection. Marginale, mais peut-être décisive. C'était neuf, tout le monde le regardait, ça a personnalisé, ça a polarisé au maximum. Bon, les deux journalistes, c'est pas la peine d'en parler. Ils n'ont joué aucun rôle pendant le débat en question. Parce qu'on était arrivé à convaincre François Mitterrand d'y participer qu'à condition qu'on ne serve à rien. Il avait accepté le débat, mais il n'avait pas accepté l'arbitrage. Donc, on a tenu parole, évidemment. On ne pouvait pas faire le contraire, surtout pour le premier duel. Mais ça peut très bien avoir déplacé 100 000 voix ou 200 000 voix. À cause de la nouveauté et du choc. Évidemment, Valéry Giscard d'Estaing a mieux tiré son épingle du jeu, même si François Mitterrand n'était pas un débutant du tout à la télévision. Mais Giscard s'était entraîné dans un studio depuis des années. C'était un professionnel de l'audiovisuel. Connaissait pas François Mitterrand.
Patrick Modiano, Jacques Mauclair et Claude Lelouch seront les invités de cette édition magazine d'Interactualité au cours de laquelle nous allons parler spectacle. Et du spectacle, il y en avait hier soir à la porte de Versailles au cours du meeting tenu par Valéry Giscard d'Estaing. Vous l'avez entendu en commençant ce journal, mais je vous propose d'écouter ce document. Ce meeting, dans sa première partie, s'est terminé par une chanson chantée par Charles Aznavour. L'hymne choisi par le candidat pour sa campagne électorale, il s'agissait du chant du départ.
La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle, pour elle. Un Français doit mourir, un Français doit vivre.
Et oui, Charles Aznavour soutient la candidature de Valéry Giscard d'Estaing comme d'autres acteurs, que ce soit Brigitte Bardot, Odette Joyeux ou Sylvie Vartan, Pierre-Jean Veillard, Stoney Chardin, Johnny Hallyday et bien d'autres. Bien entendu, de l'autre côté, chez François Mitterrand, les artistes aussi ont participé à la campagne. Et dans ce même parc des expositions, il y a de cela quelques semaines, au cours du meeting unitaire tenu par François Mitterrand, devant 100 000 personnes également, il y avait l'un de ses supporters, Guy Bedos.
Bonsoir, nous sommes maintenant à 3 minutes de 20h, à 3 minutes du moment où nous sommes autorisés à vous livrer les estimations des instituts de sondage pour ce qui nous concerne l'estimation de la Sofres. C'est le suspense, c'est l'attente, et vous pourrez le constater, même sur ce plateau de télévision, le plateau 2 à Cognac-G, c'est aussi le silence total, même les téléscripteurs se sont tus, on attend 20h.
Le 19 mai.
Je regarde la pendule avec vous. 59 minutes, 30 secondes très exactement. La voici à l'antenne et nous allons attendre ensemble l'heure fatidique, c'est-à-dire 20h. À 20h seulement, nous serons en mesure de vous donner une estimation. Une estimation qui vient d'arriver sur mon bureau et que je vais vous lire maintenant. Dans moins de 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, il est 20h, Sofres ORTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1, c'est l'estimation ORTF Sofres. J'appelle Jacques Idier à la Sofres pour confirmation.
Les résultats de cette élection sont extrêmement serrés, Alain Duhamel.
Les résultats de l'élection sont les plus serrés de l'histoire des présidentielles. Et je pense que, bon, il ne faut jamais insulter l'avenir. Enfin, il y a eu du coup, outre la nouveauté des circonstances, un président qui meurt de façon inattendue au milieu de son mandat. Il y a eu le coup de couteau dans le dos organisé par Jacques Chirac. Là aussi, on n'a jamais vu ça avec cette ampleur pour aucun parti dans la suite. Il y aura des discussions sur les communistes en 81, mais jamais ça n'aura été des prises de position publiques.
Bravo, bravo, monsieur le maire. Merci.
Quelle aventure.
Je n'ai pas entendu ce que disait Mitterrand.
Si, je l'ai entendu. J'en ai entendu une partie. Il dit qu'il souhaitait bonne chance au prochain président.
Ah bon.
Et puis, aucun duel final n'a été aussi partagé, égalitaire finalement. C'était une situation qui était complètement nouvelle. Alors, de surcroît, on savait que quel que soit le vainqueur du duel, on entrait dans une phase différente de l'histoire politique. Si c'était François Mitterrand, ça serait la première fois depuis 1958 que la gauche pouvait gagner une élection nationale. Si c'était Valéry Giscard d'Estaing, on savait que ça ne serait pas une rupture, mais que ça serait autre chose que le gaullisme. Que ça serait la fin du gaullisme, en tout cas du gaullisme légitimiste. Mais même si, pour les plus légitimistes des gaullistes, Georges Pompidou était déjà un déviant. Bon, mais on savait qu'avec Valéry Giscard d'Estaing, c'était proclamé, et surtout sa campagne hyper brillante, mais hyper brève, avait surpris et donné le sentiment que les choses allaient être différentes, plus différentes que ce qu'on imaginait de lui encore dans les années précédentes.
J'adresse mon salut très cordial à mon concurrent moins heureux, qui a un rôle à jouer dans le présent et dans le futur de la politique française. On pouvait naturellement imaginer une marge plus large. Mais vous savez que dans une élection présidentielle, ce qui compte, c'est la décision et c'est la responsabilité. La décision, vous l'avez prise. If you wish, I can try to say it in English. La responsabilité. Please be silent. Je l'exercerai. Do not disturb me. Je sais, France, que de ce jour has elected that une ère nouvelle its president de la politique française, celle du rajeunissement. She selected him celle du changement after a very democratic and clear campaign.
Merci à Alain Duhamel. Prise de son, Lucien Lefebvre et Antoine Espel. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Anne-Lise Signoret et Corinne Chauvel. Archivina, Pierre Pinault. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. C'était 1974. Pompidou est mort. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Anne Fleury.